Et oui, merci beaucoup. Alors, bienvenue dans ce tout premier numéro de cette toute nouvelle émission Passerelle. Alors, qui dit nouvelle émission dit aussi beaucoup de questions. Mais de quoi va-t-on bien parler? Quel est le principe? Et puis, est-ce qu'on ne va pas s'ennuyer? Alors, laissez-moi vous présenter Passerelle en quelques mots et... Ah oui, pardon, il faut pas que j'oublie, je ne suis pas la seule à vous parler puisque je suis accompagnée d'une machine à remonter dans le temps qui se prénomme Gudule et que vous allez apprendre à connaître. Alors dans Passerelle, on va faire des liens, on va voyager dans le temps et dans l'espace, on va explorer de nouveaux pays, côtoyer des œuvres d'art, se retrouver transporté dans des films ou en tête-à-tête avec des personnalités étonnantes. En bref, ce que Gudule et moi, on vous propose dans Passerelle, c'est de faire des liens entre le présent et l'histoire, l'actualité et la littérature, la science et la peinture. Bref, je vous laisse découvrir tout ça par vous-même dans ce premier épisode condensé, certes, mais en direct.
Time Trap a prouvé que le voyage dans le temps finira bel et bien par exister un jour.
C'est de la fiction et puis je trouve le concept tellement sympathique. On a vouloir créer un lien.
Faire voyager
dans le temps, moi j'y croyais pas trop.
Welcome aboard, ladies and gentlemen.
Bienvenue dans Passerelle, l'émission qui crée des liens et vous fait voyager dans le temps, l'espace et les arts. Embarquement immédiat. Alors, puisqu'il fallait trouver un thème à ce tout premier numéro, je suis simplement allée chercher l'inspiration dans la ville, puisqu'aujourd'hui c'est certes l'anniversaire de Transistor bien sûr, mais c'est aussi le début de la fête des Lumières à Lyon. Je vous propose donc une petite histoire de la lumière et de l'éclairage entre le Moyen-Âge et l'actualité, entre peinture et cinéma et entre littérature et urbanisme, en espérant éclairer votre lanterne. Oui bon, désolé, je sais, on avait dit les jeux de mots, tu me laisses gérer, alors pas de commentaires s'il te plaît.
La fête des Lumières débute ce soir à Lyon.
Pour Paris, la ville lumière, la cité où la passion...
La technique du clair-obscur.
J'ai un réverbère et un allumeur de réverbère.
L'éclairage public sur la nuit des barricades.
Pour apercevoir les étoiles.
Alors je vous propose d'abord de découvrir la petite histoire de l'éclairage urbain. Aujourd'hui, les enseignes lumineuses et les LED sont partout, mais vous vous doutez bien que la nuit, on a longtemps vécu dans une obscurité porteuse d'un imaginaire fascinant.
J'aime la nuit avec passion. Je l'aime avec tous mes sens, avec mes yeux qui la voient, avec mon odorat qui la respire, avec mes oreilles qui en écoutent le silence, avec toute ma chair que les ténèbres caressent. Le jour me fatigue et m'ennuie. Quand le soleil baisse, une joie confuse, une joie de tout mon corps m'envahit. Je m'éveille, je m'anime. À mesure que l'ombre grandit, je me sens tout autre, plus jeune, plus fort, plus alerte. Je la regarde s'épaissir, la grande ombre douce tombée du ciel. Elle noie la ville comme une onde insaisissable et impénétrable. Elle cache, efface, détruit les couleurs, les formes, étreint les maisons, les êtres. De son imperceptible toucher.
Alors on le voit dans cet extrait de La nuit de Maupassant, la nuit est un objet fascinant. Et puis Gudule, est-ce que pour commencer ce voyage dans le temps, tu pourrais nous emmener quelques siècles en arrière? Alors dans la Rome antique déjà, on pouvait observer un service public de vigile nocturne. On aurait des preuves de l'existence de certaines institutions comme la Nocturnus, ou préfet des vigiles à Rome, mais même dans les grandes heures de l'Empire, les citoyens ne pouvaient sortir la nuit qu'au péril de leur vie. Au Moyen-Âge, ensuite, un couvre-feu est déclaré pour la nuit. On se cloître chez soi pour de longues veillées, et dans les grandes villes, le pont-levis se ferme à la tombée du jour, et la clé de la ville est solennellement confiée au portier. On s'éclaire avec les lampes à huile, comme chez les Romains et les Grecs d'abord, puis avec des bougies. Mais comme à Rome, les crimes se multiplient dans une nuit liée à des croyances en tout genre, et avant tout métaphore des ténèbres et de l'obscurantisme païen. Parce que revenons à la Genèse, Dieu a créé la lumière pour chasser les ténèbres, la nuit est donc le domaine du diabolique et du maléfique. Et ça tombe bien, puisque les croyances se multiplient. En Bretagne, on craint l'Ankou, ou char de la mort, qui apparaît à la tombée du jour. En Normandie, on craint que les femmes enceintes ne soient piétinées par de grandes bêtes noires. Et puis on retrouve aussi partout cette conception négative de la nuit. Chez Dante, les enfers sont le lieu où le soleil se tait. Et puis chez les Incas, on craint la disparition éternelle du soleil, une divinité majeure.
Ah, c'est ainsi, fais que le soleil luise de nouveau, et je t'accorderai tout ce que tu demanderas.
Alors oui, t'as raison, on s'égare, alors revenons à notre Moyen-Âge. Au Moyen-Âge se mettent quand même en place quelques mesures pour apporter un peu de sécurité et de lumière dans les rues. Déjà, des chaînes sont tendues dans les rues pour limiter la circulation des ivrognes, des guetteurs installés dans les tours, des bourgeois proposent leur aide et mettent en place un guet bourgeois ou guet dormant pour les moqueurs. Et puis surtout, les rondes de nuit sont organisées par les échevins. Alors oui, t'as raison, c'est le moment de s'accorder une pause dans notre récit et d'aller faire un tour du côté de l'art. Pensez à la nuit, pensez à l'éclairage, pensez à la lumière et essayez de vous représenter un tableau en rapport avec tous ces thèmes. Ça y est ? Vous avez sûrement en tête l'œuvre d'un des artistes qui travaille avec le clair-obscur. Cette technique qui consiste à donner l'illusion du relief et des volumes en imitant les effets de la lumière sur ces objets. Vous pensez peut-être d'abord aux œuvres du Caravage. Chez lui, on peut parler de ténébrisme. Ombre et lumière se côtoient sans dégrader, et cette opposition a une vraie signification. Alors que la lumière est signe d'intrusion du divin, l'obscurité se rapporte à l'ici-bas et au monde terrestre. Le caravagisme ensuite va se diffuser en Europe et parviendra jusqu'aux Flandres, ce qui est l'occasion d'évoquer Rembrandt et notamment sa ronde de nuit, dans lequel le capitaine qui mène sa troupe de miliciens et la petite fille en robe blanche sont subtilement éclairés, alors que le reste des personnages est plongé dans la pénombre. Alors oui, t'as raison, en citant ce tableau je triche un peu, puisque la scène se passe en réalité de jour et n'a rien à voir avec une ronde de nuit, puisque c'est seulement la sortie d'une milice. Le nom a en fait été donné au tableau par les critiques français du 18e, bernés par les teintes obscures de l'arrière-plan. Et puis enfin, on ne peut pas parler de clair-obscur sans parler de Georges de Latour, ce peintre lorrain célèbre pour ses jeux d'ombre et de lumière. Et pour parler de ses toiles, je cède la parole aux écrivains. René Char, d'abord, a lié peinture et actualité en interrogeant l'obscurité des tableaux à la lumière des ténèbres hitlériennes et retranscrit l'atmosphère de mystère qui envahit les toiles du peintre. Pour Malraux, fasciné par la maîtrise de l'éclairage, ce n'est pas l'obscurité que peint de Latour, c'est la nuit. Pascal Quignard, lui, s'attache à décrire les personnages de ses toiles, des personnages absorbés par la pensée et plongés, je cite, « dans une nuit méditative, souvent réunie autour d'une flamme de bougie qui serait pour l'auteur symbole même de la présence de Dieu ». Tiens, étonné, puisque c'est bientôt Noël, j'en profite pour vous recommander un petit bouquin absolument génial sur De Latour. Il est signé Gaël Josse, il s'appelle « L'ombre de nos nuits » et se penche sur un tableau, Saint-Sébastien soigné par Irène, avec une justesse incroyable, je vous le conseille. Oui bon, ça va, c'est pas de la pub, c'est... Enfin, voilà quoi, c'est bon.
Ah oui, donc finalement, on a en quelque sorte du clair-obscur même en littérature.
Oui, alors c'est vrai, t'as raison. Et puis d'ailleurs, ce clair-obscur, il est aussi utilisé en photographie. Alors je vous invite, si vous avez le temps, à jeter un œil aux photos de Paul Strand et surtout au Paris de Brassailles. Brassailles qui capture dans sa boîte noire des fragments de réel, des petits bouts du Paris nocturne, des rues désertes aux cabarets surchargés, en passant par les quais de Seine enneigés et déserts. Des clichés à regarder en écoutant les derniers numéros d'Errance.
Bon alors, excuse-moi d'interrompre à la fois cette émission et cette ambiance lugubre, je vois bien qu'on est loin de l'éclairage public, mais rien n'est fait pour mettre un petit peu de lumière dans ces villes obscures.
Alors oui, reprenons notre récit historique. En fait, si. À plusieurs reprises, les rois tenteront d'éclairer les villes sans succès. Saint-Louis ordonne aux habitants d'éclairer leurs façades avec un pot à feu, Philippe V demande la mise en place d'une chandelle près de la porte du Châtelet pour faire face au crime, et puis même chose sous Charles V et François Ier, puis sous Henri II qui met en place des falots, ce sont des lanternes de toile à chaque coin de rue pour éclairer la capitale, mais manque de chance, le projet sera abandonné en raison de la fumée qui se dégage de ces falots. Alors oui, t'as raison, c'est l'heure maintenant d'un petit saut dans le temps. 1662, est-ce que ça tirait ? Ah, alors, il va y avoir du changement. Parce que sous Louis XIV, Nicolas de la Reynie est nommé lieutenant général de police avec une consigne, netteté, clarté, sécurité. Son idée, la mise en place du premier système d'éclairage public, c'est-à-dire des lanternes à bougies suspendues par des cordes depuis le premier étage des maisons. La technique restera en vigueur jusqu'à l'arrivée d'un nouveau personnage qui porte, tenez-vous bien, le nom de Dominique François Bourgeois de Châteaublanc. Son idée, c'est la lanterne à réverbère. En gros, une mèche de coton placée sous un réflecteur qui renvoie la lumière vers le sol, enduite de cire, puis plongée dans de l'huile de tripe que l'on fait brûler. Le système se répand très vite, même si l'odeur qui se dégage des chandelles à huile de tripe est affreuse. Alors oui, t'as raison, tout ça est très pragmatique, mais il y en a d'autres qui, eux, voient toujours la nuit comme un objet rempli de mystère, ce sont les romantiques. En musique, les nocturnes, reflets de la mélancolie de l'âme, se multiplient. En littérature, la nuit est le lieu du mystique et du rêve pour Novalis ou Nerval, l'espace-temps du fantastique dans le Gaspard de la nuit d'Aloysius Bertrand et le lieu de l'introspection inquiète dans les nuits de Musset. On pourrait y passer des heures, mais concluons avec Baudelaire et son poème « Recueillement ».
Loin d'eux, voient se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel en robe surannée, le soleil moribond s'endormir sous une arche, et comme un long linceul traînant à l'Orient, entend, ma chère, entend la douce nuit qui marche. Bon, c'est joli, j'avoue, mais finis donc ton histoire d'éclairage public, c'est quoi la prochaine étape?
Alors c'est la diffusion de l'éclairage au gaz, avec l'apparition des becs de gaz, du métier d'allumeur de réverbères et de candélabres en fonte, pour éviter que les fêtards qui s'accrochent aux réverbères ne les fassent plier sous leur poids et ne cassent les conduites de gaz. Il n'empêche que les candélabres en fonte n'ont pas empêché Nerval de se pendre à un réverbère, chapeau haute forme sur la tête, rue de la Vieille Lanterne, une nuit de 1855. Toujours est-il qu'à la même époque, les loisirs comme l'opéra et le bal masqué se développent, avec toujours cette idée de recherche de distinction, de renversement de l'ordre social. En 1878, nouveau rebondissement. Edison invente la lampe à incandescence et l'ampoule électrique remplace le gaz. Paris devient ville lumière, conquise par la fée électricité, symbole de la modernité et du progrès. Naît alors un nouveau rapport des Parisiens au temps et à la rue, et c'est une véritable effervescence. Se multiplient les bars, les guinguettes, les cabarets comme le Chat Noir à Montmartre, les cafés-concerts ou ce que l'on appelle les brasseries de filles, et dont vous trouverez une illustration parfaite dans le film French Cancan de Jean Renoir. La nuit devient un temps de loisirs et plus un temps mort, et surtout, l'éclairage change radicalement les manières de pratiquer la ville. En bref, c'est une véritable révolution au niveau social, politique, urbanistique, qui permet aussi au pouvoir de contrôler la population. Et puis à Londres, pareil, la lumière se multiplie, à tel point qu'en arrivant dans la ville, le prince allemand von Pucker-Muskau pense qu'une illumination a été ordonnée en son honneur, rien que ça. Et puis face à tout cela, et en 1857, Théophile Gautier prédit la fin de la nuit.
Il n'y aura plus de nuit, sur chaque place s'élèveront des phares. La seule chose à quoi l'on peut reconnaître la nuit, c'est qu'on y verra aussi clair que dans le jour.
Et puis, il me semble que cette prophétie s'est un petit peu réalisée, puisque ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, éclairer la nuit pose encore des problèmes.
La cinquième planète était très curieuse. S'il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère, le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Cependant, il se dit en lui-même, peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus, ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli.
C'est véritablement utile puisque c'est joli. Et bien voilà une phrase qui résume bien notre petite histoire de l'éclairage public. À la belle époque d'ailleurs, première étape, la lumière, c'est la sécurité et le loisir, la modernité et le progrès. Dans les années 70, ensuite, c'est une conception hygiéniste et sécuritaire, puis fonctionnaliste et rationnelle qui prévaut, avant de laisser place dans les années 1990 à l'esthétisme. La preuve, la mise en place de plans lumière, de scénographie urbaine, la naissance du métier de concepteur lumière et le jeu sur les imaginaires de la nuit. Parce que oui, la nuit, c'est avant tout des imaginaires et des représentations. Alors oui, c'est vrai qu'on peut même aller plus loin. Déjà, la lumière est indispensable pour les travailleurs de nuit. Parce que oui, il y a bien une économie nocturne avec 30 000 personnes employées et 75 millions d'objets qui transitent chaque nuit par la poste. Et puis la lumière est aussi partie intégrante d'un marketing territorial et du tourisme nocturne. Parce que oui, la lumière la nuit est aussi un objet politique, partie intégrante de ce qu'on peut appeler la gouvernementalité nocturne.
Ok, du coup tout ça, ça pose peut-être quelques problèmes, non?
Quoi? Non, mais t'inquiète pas, tu vas pas t'ennuyer. Alors parce que pour vous montrer les problèmes de l'éclairage public, je vous propose en fait de faire le portrait de plusieurs personnages. Le premier, c'est Guy, un astronome amateur à la tête d'une association pour sauver la nuit, qui a été un des premiers à dénoncer la pollution lumineuse. Et Guy, d'ailleurs, connaît plusieurs chiffres pour vous convaincre. Le ciel nocturne est en moyenne 7 fois plus éclairé qu'il y a 100 ans, et un tiers de la population mondiale est incapable de voir la Voie lactée à l'œil nu. Le deuxième personnage, c'est Yazid Kerfi, le directeur du collectif Médiation Nomade, qui installe la nuit un camping-car en bas des immeubles des quartiers défavorisés pour créer rencontre et convivialité, et qui se rend bien compte que l'éclairage de nuit illustre la fameuse dichotomie centre-périphérie. Les centres sont valorisés et les banlieues soit oubliées, soit défigurées par un éclairage installé dans le but de déréduire la délinquance. Et le troisième personnage, c'est René, maire de commune, qui doit gérer plusieurs problèmes liés à cet éclairage public. La gêne visuelle, la surconsommation, puisque est-ce que c'est vraiment utile d'éclairer sous tous les angles des ronds-points très peu fréquentés, ou la question du recyclage des produits qui contiennent des substances toxiques. Et puis René, il tient aussi à son argent. Or, l'éclairage public, c'est 40% du budget des communes, d'autant plus que 75% des installations seraient obsolètes et ont plus de 25 ans. Et le dernier personnage, c'est Mathieu, jeune ingénieur. Son défi, c'est de mettre en place de nouveaux moyens d'éclairage. Par l'invention d'un capteur qui adapte l'éclairage en fonction de la présence de personnes ou de voitures, ou par le développement du LiFi, un petit nom sympathique pour désigner un système de connexion Internet sans fil, haut débit, et basé sur les modulations des LED qui s'allument et s'éteignent plusieurs fois par seconde. Et je vous propose pour finir sur une belle image, une petite métaphore que j'emprunte au géographe Luc Gielczynski. La nuit serait un front pionnier, à découvrir, explorer et coloniser. Et écoutons Verlaine à ce sujet.
Le jour me fascinait, et bien que je fusse poltron, dans l'obscurité, la nuit m'attirait. Une curiosité m'y poussait, j'y cherchais je ne sais quoi, du blanc, du gris, des nuances, peut-être.
Et oui, puisque pour clore cette émission, je voudrais vous donner du grain à moudre et vous inviter à explorer d'autres aspects fascinants de la nuit, tout en nuances. Son aspect politique d'abord. Pensez à ces nuits historiques comme celle de l'abolition des privilèges, celle des longs couteaux de mai 68, ou les nuits blanches pour désigner les nuits d'attentats terroristes en Corse puis en Algérie. Pensez aussi aux maires de la nuit, parce que oui, ça existe, des gens ont été élus pour améliorer la politique la nuit. Et aux politiques de la nuit, ces décrets politiques qui réglementent le travail de nuit, les débits de boissons ou les horaires d'ouverture. Et pensez aussi à l'investissement de la nuit comme une nouvelle manière de faire de la politique et de contester l'ordre établi, pour les veilleurs de nuit debout notamment. Et puis ensuite, pourquoi ne pas évoquer l'aspect social de la nuit? Parce que oui, la nuit comme le jour, le droit à la ville reste asymétrique. Si les fêtards s'approprient la nuit, ce n'est peut-être pas autant le cas pour les travailleurs de nuit ou encore les femmes ou les SDF. La gentrification, elle aussi, a lieu de nuit, lorsque les plus riches s'approprient les rooftops ou les clubs huppés en pratiquant un entre-soi codifié. Et il ne faudrait pas non plus oublier que la nuit, c'est aussi des conflits d'acteurs. Pensons par exemple aux prostituées chassées par la population à Strasbourg ou aux affrontements entre forces de l'ordre et citoyens dans la fameuse rue de la Soif Rennaise. Tenez, pour finir d'ailleurs, la nuit a aussi un aspect scientifique. En effet, nous sommes soumis au rythme nictéméral, l'alternance entre jour et nuit, qui conditionne notre rythme circadien, c'est-à-dire nos processus biologiques d'une durée de 24 heures. La nuit aurait aussi un rapport essentiel avec la vie. Les biologistes ont prouvé que les zones les plus peuplées en espèces étaient celles où l'obscurité était totale, colonisée par les espèces lucifuges, et que les mammifères se seraient d'abord développés la nuit, au temps des dinosaures. Et puis avec l'éclairage artificiel, l'évolution de nos modes de vie, nos rythmes de vie se sont aujourd'hui totalement bouleversés, puisque l'on dort 7h30 en moyenne contre 9h en 2000, et qu'il est bien maintenant possible de rester éveillé 24 heures grâce à des médicaments comme le Provigil. Eh bien oui, c'est possible. Et puis, si la nuit est le lieu de tous les possibles et de toutes les transgressions, c'est qu'elle est liée à un imaginaire merveilleux avec lequel il faut jouer pour éclairer la ville, mais aussi pour éclairer nos nuits à tous. Alors errons dans la ville la nuit, comme dans Nuit Blanche de Visconti, ou comme le paysan de Paris d'Aragon. Transgressons l'ordre social quand le soleil est couché, comme le héros de Paris qui dort, ce gardien de la tour Eiffel qui profite de la nuit pour manger gratuitement, piller les magasins et déshabiller les femmes, mais sans aller aussi loin que les bandits des forbans de la nuit de Jules Dassin. Et finissons par un conseil de Diderot, la nuit met l'imagination en jeu. La clarté est bonne pour convaincre, elle ne vaut rien pour émouvoir. Soyez ténébreux. J'espère donc que ce premier numéro condensé de Passerelle vous aura plu, et je vous invite à embarquer pour un autre voyage dans le temps en écoutant les prochains épisodes qui évoqueront sûrement une réflexion sur la notion de vrai à partir de 1984 de George Orwell, l'histoire de la folie, et promis, ce ne sera pas un remix de Foucault, ou les nouvelles manières d'aimer au XXIe siècle à partir des liaisons dangereuses.
Merci beaucoup Marie pour cette nouvelle émission Passerelle qu'on suivra avec grand plaisir. Je passe le micro à Rémi pour ce magazine de cinéma d'étoiles plein les yeux.
Rebonsoir Colline.